Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Vous le savez, l'extrême droite se glisse dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes. Mais l'extrême droite tente aussi de se glisser dans nos imaginaires à travers des récits qu'elle veut nous imposer, notamment par le biais de milliardaires peu fréquentables qui achètent ou financent à peu près tout ce qui peut participer à leur projet politique nauséabond. Et puis l'extrême droite, elle s'empare aussi de l'histoire, la transforme à sa sauce et en profite pour s'accaparer un récit catholique à l'opposé des valeurs chrétiennes, en principe tournées vers l'accueil, vers l'attention à son prochain, aux opprimés et aux démunis. En bref, l'extrême droite instrumentalise la religion pour son projet politique de haine et d'oppression. Heureusement, face à cela, des voix s'élèvent et pour leur donner un écho, un tout jeune média indépendant a fait son apparition dans le paysage médiatique français pour remettre les pendules à l'heure et pour reprendre la main sur un discours chrétien plus fédérateur et bien sûr plus enthousiasmant. Alors chers auditeurs, tendez bien l'oreille parce qu'on accueille ce soir le média chrétien joyeux et radical Le Cri et notamment son cofondateur Paul Picaretta. Bonsoir Paul, bienvenue dans Quatrième Murmure.
Bonsoir.
Alors on va voir avec toi l'importance du CRI dans le paysage médiatique français, surtout à l'heure actuelle. Et puis on aura aussi l'occasion de découvrir ce que les pages du magazine peuvent présenter comme enquête et comme reportage. Et justement, on est là aussi ce soir avec Estelle Janjo. Bonsoir Estelle, bienvenue sur le plateau de 4ème Murmure.
Merci beaucoup de m'accueillir, bonsoir.
Alors toi, tu as rédigé un reportage dans le dernier numéro du CRI sur les cathos de banlieue. Tu nous expliqueras ta démarche et ce que ce reportage nous enseigne. Et pour cela, tu seras au micro de notre journaliste Ilona. Salut Ilona.
Bonsoir.
Et en troisième partie d'émission, restez avec nous parce que Sacha, toi, tu vas nous proposer une chronique sur la revue collective Combat qui propose de faire front contre l'extrême droite. Salut Sacha.
Salut tout le monde.
Et enfin, comme d'habitude, on partira en région avec Luna. Salut Luna.
Bonsoir.
Alors toi, tu es allé un peu plus loin que d'habitude ce mois-ci parce que tu nous emmènes à La Réunion.
Eh oui.
Alors voilà, vous avez le programme de ce sixième épisode. On est avec le média Le Cri. Restez avec nous, vous êtes bien sur Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
Mais d'abord, vous le savez, dans Quatrième Murmure, on parle de presse indépendante, bien sûr. Mais que s'est-il passé justement dans la presse indépendante ces dernières semaines ?
T'as pas lu les journaux ?
Moi, comme je suis au courant de rien, excusez-moi, mais...
Alors Marion, cette semaine, toi, tu as fait le tour de la presse indépendante. Qu'est-ce que tu en as retenu ?
Eh bien, pour commencer, vous l'aurez sans doute remarqué, ces municipales ont été le théâtre d'une surenchère sécuritaire dans certaines villes, où l'idée était de balancer le plus de caméras possible pour surveiller la population. C'est déjà une dérive qui peut légitimement nous inquiéter, mais cette percée sécuritaire peut aller encore plus loin qu'on ne l'imagine. Le 16 mars, le média Disclose a révélé un usage massif d'outils de reconnaissance faciale par les policiers et les gendarmes lors des contrôles d'identité. Alors que l'utilisation de cet outil est très restreint dans la loi, se limitant à certaines enquêtes et pour les seuls quelques policiers habilités, la réalité montre que c'est bel et bien la foire à la saucisse. Les policiers ont l'outil sur leur téléphone, ce qui les incite à en faire un usage complètement disproportionné, avec une seule photo. Prise lors du contrôle, ils ont accès aux antécédents judiciaires de la personne contrôlée.
Ça veut dire qu'ils ont accès à l'ensemble des délits et des crimes passés.
Oui, mais pas seulement. Ce serait déjà suffisamment problématique, mais il faut savoir que vous avez certainement un fichier à votre nom si vous avez déjà porté plainte ou fait d'autres démarches auprès de la police. Est-ce que vous voyez comment ça peut partir en vrille ? Oui, si vous avez porté plainte pour une insulte contre votre orientation sexuelle par exemple, pour des agressions sur votre lieu de travail, pour des motifs qui concernent votre famille ou votre couple, les policiers ont accès à ces informations extrêmement personnelles, voire intimes, avec une simple photo de vous. C'est une pratique qui se situe hors de tout cadre légal. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous recommande chaudement la vidéo de Camille Reporter sur YouTube, réalisée en collaboration avec Disclose, qui explique tout ça en détail, et évidemment l'enquête de Disclose elle-même.
Et maintenant, tu vas nous parler un petit peu des municipales.
Tout à fait, avec un article publié sur le média Bon Pote, qui liste 11 candidats ayant passé le premier tour.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, ces candidats ?
Alors, si je vous dis François Bayrou ou Damien Abad, peut-être que ça peut vous donner une petite idée de l'angle de cet article. Donc, on va dire carrément que le trigger warning est donné, nous allons parler de violences sexistes et sexuelles. En gros, il s'agit de candidats qui, malgré leur mise en examen, les témoignages réunis contre eux, leur implication supposée dans des affaires de violences sexistes et sexuelles, ont eu l'indécence de se présenter au municipal et sont soit arrivés en tête, soit ont carrément remporté les élections dès le premier tour. Viol sur mineur, proxénétisme aggravé, harcèlement sexuel, violence conjugale, le banc des accusés regroupe tout ce que les femmes peuvent subir de pire dans ce monde. Savoir que ces accusations ne leur retirent en rien leur pouvoir n'est pas étonnant, mais ça fout la rage au premier degré. Notre système démocratique mérite mieux que cette bande d'affreux, car même en cas de soupçon, le principe de précaution devrait nous commander de leur retirer du pouvoir, pas de leur en donner plus.
Pour le dernier article de la sélection, tu nous offres un petit bol d'air frais.
Et oui, pour finir, je vous emmène bien loin des municipales et des turpitudes françaises. À des milliers de kilomètres au nord de l'Europe, le média terrestre nous raconte la lutte du peuple sami à travers un reportage au cœur d'un camp climat. Le peuple sami est un des seuls peuples autochtones reconnus en Europe qui subit la colonisation de son territoire historique, le Sampi, depuis le XVIIIe siècle à l'époque où les frontières de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Russie se fixent telles qu'on les connaît aujourd'hui. Persécution, assimilation forcée, ce peuple est marqué par la lutte depuis des centaines d'années pour maintenir ses traditions, notamment l'élevage de rennes et la pêche qui sont ses principaux moyens de subsistance dans ce territoire polaire.
Et alors de quoi parle cet article ? Pourquoi un camp climat s'est installé là-bas ?
Eh bien parce qu'une nouvelle offensive des industries minières est en préparation du côté de la montagne Nusir, en plein cœur du territoire Sampi. L'Union européenne déclare que le gisement présent dans la montagne, regorgeant de cuivre, d'or et d'autres minerais rares, est un point stratégique pour sécuriser ses approvisionnements. Mais cette mine destructrice avait déjà mis à mal le territoire dans les années 70 en polluant les eaux du fjord voisin et prive aujourd'hui les Samis d'espace pour l'élevage de rennes en plus de leur souveraineté. Le forage a démarré en juin 2025 et avec lui s'est installé un campement permanent que les activistes occupent en continu. Le reportage a eu lieu en juin 2026 lorsque le camp a accueilli des activistes du monde entier afin de faire valoir les droits des Samis à disposer de leurs terres, à travers une action de désobéissance civile durant laquelle les activistes vont occuper la mine. L'article évoque aussi la vulnérabilité de ce peuple face aux instabilités politiques et climatiques, car ce peuple et son mode de vie traditionnel subissent d'ores et déjà de plein fouet les conséquences de l'évolution catastrophique du climat, qui est due évidemment au système économique occidental. De quoi nous rappeler que la lutte contre le changement climatique, l'impérialisme, le colonialisme, l'extractivisme et le libéralisme ne peuvent se penser comme des problèmes distincts.
Eh bien, merci Marion pour cette revue de presse des médias indépendants. Et justement, en parlant de médias indépendants, on accueille ce soir Paul Picaretta. Tu es cofondateur du média Le Cri. C'est un mensuel dont le premier numéro est paru fin octobre 2025. Rebonjour Paul.
Eh bien, rebonsoir et merci pour ton invitation.
Merci. Et merci d'être venu surtout. Le Cri se définit comme le média chrétien, joyeux et radical. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui manquait dans le paysage médiatique français jusqu'en 2025, avant l'apparition du Cri ?
Bon, dans le paysage médiatique, je sais pas. Dans le paysage médiatique chrétien, là, je sais un peu plus. Il n'y avait pas eu de médias engagés à gauche chez les chrétiens depuis plusieurs décennies. Et maintenant, c'est chose faite. La question qu'on peut se poser, c'est plutôt pourquoi il n'y a pas eu des médias chrétiens gauche lancés dans les années 90, 2000, 2010. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que en fait en 2025 aujourd'hui il y ait quasiment un monopole chez les nouveaux médias, un monopole de la droite et de l'extrême droite chez les catholiques en tout cas. Voilà.
Voilà, donc maintenant, en tout cas, c'est chose faite. Et alors, dans Le Cri, qui est un mensuel, donc, il y a des enquêtes, des reportages, des chroniques. Puis, il y a aussi des pages spiritualité. Est-ce que tu peux nous expliquer la formule, l'équilibre que vous essayez de trouver au Cri ?
Ouais, en fait, c'est un magazine de société d'abord. C'est pas un magazine de niche qui aurait dit, bon, mais nous, on va faire que de l'écologie ou que de la justice sociale, etc. Nous, ce qu'on pense, voilà, notre analyse, c'est il manque pour les chrétiens, pour les croyants chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, il manque un média qui ait une approche de société comme le serait Society. C'est pour ça que quand on a débarqué, on s'est beaucoup présenté comme le Society Cato, en fait, ou Society Chrétien, parce que on traite de tous les sujets et on offre un regard par nos reportages et nos papiers, un regard sur à peu près tous les sujets, et que ce soit l'écologie, l'antiracisme, les municipales, etc. Donc c'est voilà, la ligne, c'est vraiment offrir un regard à tous les chrétiens, qui soit pas seulement un regard de niche spécifique. C'est ça qui manquait vraiment. On peut parler de la concurrence, enfin des autres titres qui existent. Il y avait des offres, mais des offres qui s'adressent plutôt à un lectorat qui est aujourd'hui beaucoup plus âgé, qui a, on va dire, plus de 60 ans. Quoi. Mmh. Voilà.
Donc un magazine de société, c'est ça le point important à retenir. Et on retrouve un petit peu d'ailleurs c'est peut-être cette patte Society, avec des tons parfois un peu ironiques, presque d'humour.
Je dirais que c'est un ton, c'est un ton de trentenaire un peu con. voilà, disons que c'est le ton de ce qu'on est. On fait le magazine avec ce qu'on est, avec ce que sont les journalistes aussi qui travaillent. Donc voilà, il n'y a pas besoin de forcer pour ressembler à ce qu'on est. Après, Théo et moi, donc Théo, mon associé, qui est le directeur de la rédaction, on est des gros lecteurs de presse. On est d'abord des amoureux de presse print, de presse écrite. Et oui, on a beaucoup eu comme influence effectivement des médias comme Society, donc qui est plutôt un média en fait de quarantenaire, je dirais. Voilà, mais du coup c'est l'influence pop années 90-2000, et faire un média avec ce qu'on est, je pense que c'est important, parce que tu t'adresses à ta génération et t'as pas besoin d'aller piquer les codes de journaux qui ne te ressemblent pas, en fait.
Non, bien sûr, c'est plus naturel comme ça, et j'imagine que les dossiers qui en découlent ressortent plus naturellement aussi.
Les dossiers auxquels tu as d'ailleurs participé, les dossiers naissent aussi bien de réflexions qu'on peut avoir avec Théo que de conf de rédac. Là, j'ai sous les yeux un numéro qui s'appelle La vérité sur les mystiques. Il y a un numéro où il y a un dossier mystique.
Le numéro 4.
Voilà, le numéro 4. Il est né lors d'une conf de rédac, un lundi matin à 10h, parce qu'en discutant, quelqu'un a commencé à dire, et puis une autre a dit. Et à la fin, j'ai dit, tiens, mais ça ferait un bon dossier, ça peut intéresser nos lectrices et lecteurs. Et donc, ça a né de discussions, de toutes les séances de travail qui ont précédé aussi le lancement, et ouais.
Oui, parce que justement, j'allais te demander comment sont choisis les dossiers. Alors, parfois, ça se joue un petit peu avec le hasard via les discussions. Mais il y a des dossiers à la fois sur les mystiques, sur Dieu dans les marges, c'était le premier numéro, mais aussi sur les prisons, sur la biodiversité, qui va apparaître, c'est le prochain numéro, en avril. Comment est trouvé cet équilibre entre les différents dossiers ?
Je dirais que la première année, on est vraiment dans un équilibre entre montrer à nos lectrices et lecteurs qu'on est un média de société, c'est-à-dire demain on va vous parler de foot, on va vous parler d'antiracisme, on va vous parler de la foi, on va vous parler de biodiversité, et en fait c'est un média de société, donc on peut parler de tous les sujets, et il n'y a pas un sujet qu'on va rien s'interdire. C'est un vrai luxe qu'on a, parce que voilà, on n'est pas cantonné à un seul sujet. Et donc les sujets ils naissent parce qu'il y a un moment, il y en a un qui est un peu plus passionné qu'un autre, qui va dire non mais vraiment ça va vraiment intéresser les lecteurs. Donc on en discute, on en débat, et puis on se dit effectivement ça peut faire un dossier. Donc ça naît vraiment de la nécessité, déjà la première année, de se dire il faut qu'on montre à nos lecteurs tous les sujets qui nous intéressent, qui peuvent les intéresser. Tu vois, le prochain dossier sur la biodiversité, à peu près n'importe quel... Donc, on est distribué en kiosque à 15 000 exemplaires. N'importe quel régleur. Donc, le régleur, c'est celui qui va affiner ton tirage et choisir les points de vente dans lesquels tu vas être distribué. Tout le monde nous a dit, vous êtes fous, ne faites surtout rien sur la biodiversité, ça ne se vendra jamais, c'est n'importe quoi de faire ça, vous êtes des fous furieux. Parce qu'effectivement, l'écologie, ça ne vend pas, et dans l'écologie, ce qui vend le moins, c'est la biodiversité.
Ah oui.
On s'est dit, il faut le faire. Et donc voilà, donc on fait des sujets aussi, parce que la biodive, à mes yeux, c'est l'un des sujets les plus importants, vraiment, de l'écologie. Qui est le sujet en réalité, enfin bon, on va pas faire débat maintenant, mais qui est l'un des pionniers, des sujets pionniers de l'écologie. bien avant la question climatique, etc. Et donc, ça nous paraît essentiel que les gens soient au courant, une fois de plus, qu'il y a de moins en moins d'insectes, donc de moins en moins d'animaux, et quelles sont les conséquences que ça va avoir sur nos vies, malgré Trump, malgré Poutine, malgré tout le reste. En fait, c'est... voilà.
Et pour en savoir un peu plus, donc, c'est dans le prochain numéro, à partir du début du mois d'avril, on pourra retrouver ce dossier sur la biodiversité.
Dans tous les kiosques.
Dans tous les kiosques. Alors justement, on
et
peut
sur
retrouver...
abonnement, surtout.
Voilà, c'est parce que j'allais vous poser, enfin te poser la question. On peut retrouver Le Cri en kiosque, en abonnement. Le modèle économique se repose principalement sur ça.
Oui, c'est ça. Nous, on est un média donc avec une très peu de pages publicitaires. On a choisi d'en avoir quand même. Ça représente moins de 5% de nos recettes. Notre modèle économique, c'est l'abonnement. Donc aujourd'hui, on a 3000 abonnés. On vise l'équilibre, donc qui a 6000 abonnés mensuels, donc et donc peu de pubs, et on a alors évidemment quelques subventions, et on a eu du mécénat au début pour financer le lancement. Et voilà, c'est tout.
Et donc, si les auditeurs, donc, auditrices...
Ni Sterrain, ni Pigas, ni personne, Wallou...
Aucun financement de Sterrain, c'est une bonne nouvelle.
Non, mais... Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais, enfin, de toute façon, même s'il avait voulu... voilà. Enfin...
Et alors, pour vous aider, comment est-ce qu'on peut s'y prendre sans passer par Sterrain, justement?
Alors donc, non, mais l'abonnement, c'est vraiment, effectivement, pour tous les médias, en tout cas, qui ont ce modèle économique-là, c'est le nerf de la guerre. C'est plus important que l'achat à l'unité. C'est la fidélité, c'est une vue sur la trésorerie, etc. Donc ça, c'est important pour tous les médias indépendants, l'abonnement. Et puis voilà. Après, si vous connaissez des riches de gauche, ben vous avez mon numéro. Et puis voilà, c'est... voilà. Mais on les a beaucoup cherchés. Alors on fait partie d'un tout un écosystème. Je pense que tu es au courant, mais l'écosystème des médias indépendants, on est, je pense, moins de 100 en France. Et donc c'est un petit écosystème. Et donc effectivement, le sujet qui revient depuis quelques années, c'est bon alors, il est où le millionnaire de gauche, quoi. Voilà.
C'est bien pour cette raison que cette émission Quatrième Murmure existe. D'ailleurs, c'est pour parler de cet écosystème des médias indépendants.
J'ai cru que j'allais dire c'est pour chercher un millionnaire de gauche.
S'il nous écoute d'ailleurs et qu'il se manifeste ou se taise à jamais. Nous, on va se taire quelques minutes d'ailleurs parce qu'on va écouter une petite pause musicale. Merci Paul pour cette première présentation du CRI. On revient tout de suite après le morceau de Solane, Le Loup.
Toi et moi, on le sait, mon mignon, t'es cramé sur le fait. Pas de retour en arrière, mal effet, cette fois c'est pour de vrai. Toi et moi, on le sait, mon mignon, t'es cramé sur le fait. Pas de retour en arrière, mal effet, cette fois c'est pour de vrai.
Tu veux montrer pas de planche, planer dans la farine. Ton histoire est pas franche. Demande à mes copines, demande à mes amis. T'as pas que des dents de lait. Tu tiens sur les brebis. Toi et moi, on le sait. Toi et moi.
Toi et moi, on le sait. Toi et moi, on le sait. Cramé sur le fait, pas retour en arrière, mal effet. Cette fois, toi et moi, on le sait. Cramé sur le fait, pas retour en arrière, mal effet. Cette fois, toi et moi, on le sait. Cramé
venez d'écouter Le Loup de Solane. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
On est donc de retour sur le plateau de Quatrième Murmure avec le média Le Cri et son cofondateur Paul Picaretta. Le Cri, c'est entre autres des enquêtes et des reportages, alors c'est parti pour l'enquête du mois.
Je mène en douce ma petite enquête.
Bon, d'autres indices ?
Tu as un scoop ?
Il faut venir et puis faire votre métier, vous faites une petite enquête.
C'est du journalisme total.
Alors Ilona, toi ce soir tu reçois la journaliste Estelle Njanjo au sujet de son enquête sur les cathos de banlieue parue dans le dernier numéro du CRI.
Bonsoir Estelle, merci d'être avec nous sur Quatrième Murmure.
Bonsoir.
Tu es donc journaliste, autrice et réalisatrice et tu as notamment collaboré avec Arrêt sur Image, La Déferlante, Radio France, RFI et bien d'autres. Pour le dernier numéro du CRI, tu as réalisé un reportage sur le vécu des catholiques de banlieue dans lequel tu décris une jeunesse en quête de sacré dans des institutions religieuses teintées de préjugés. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sujet ?
Le choix le plus évident, c'est d'abord que j'en suis issue. C'est-à-dire que je suis née et j'ai grandi et je vis en Seine-Saint-Denis. Donc moi, je n'aime pas franchir le périphérique, comme j'aime dire. Et j'ai toute ma vie vécu dans des paroisses particulièrement racisées, avec des personnes issues de l'immigration comme moi, où pour moi, avoir le catholicisme blanc et bourgeois, c'est quelque chose de très bizarre. Que j'ai découvert en fait adulte et je continue toujours à découvrir en fait cette face mine de rien droite, bien d'extrême droite, qui n'est pas du tout évidente. Et je pense que les jeunes que je côtoyais, parce que je suis aussi responsable d'aumônerie, donc je donne des cours de catéchisme à des ados de banlieue aussi, qui ont des préoccupations de jeunes de banlieue catholiques, mais qui ne se rendent pas du tout compte de la face droitisante de leur religion en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire ça.
Pour ton reportage, tu t'es notamment rendu à une nuit de prière organisée par la Cité Céleste, un collectif donc de jeunes catholiques issus des quartiers populaires de l'Île-de-France. Lancé en 2023, tu écris qu'ils ont reçu du soutien du Fonds des biens communs pendant 2 ans, donc qui appartient à Pierre-Édouard Sterrin. Tu écris que la collaboration s'est arrêtée fin 2025. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Qui a mis fin à la collaboration ? Pour quelles raisons ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment est financée la Cité Céleste ?
Ouais. Alors la Cité Céleste, c'est un organisme qui vit en dehors du diocèse, hein, et qui a été, comme vous l'avez rappelé, pendant 2 ans financé par le Fonds du bien commun, donc Pierre-Édouard Sterrin y est à la tête. Mais cette année, ils ont arrêté. Alors, évidemment, Don Alexis, qui est le prêtre issu de la communauté de Saint-Martin, qui est une communauté particulièrement conservatrice, ne m'a pas donné cette information. Il m'a tout simplement expliqué en consultant, bien après, des jours après l'avoir appelé, que en fait finalement la Cité Céleste ne voulait pas, ne se reconnaissait pas du moins dans les valeurs de Pierre-Édouard Sterrin. Donc ça, c'est important de bien préciser que c'était ça, c'est une décision collective qu'ils ont pris de faire ce communiqué, mais bien après la fin de leur collaboration. Donc je peux pas vous dire, mais voilà, ça correspond aussi au moment où il commence aussi Pierre-Édouard Sterrin à avoir mauvaise presse. Hein, voilà. Mais sinon, aujourd'hui, ils m'ont pas communiqué plus sur qui les finance. Je sais qu'ils ont des mécènes. En tout cas, ils ont plus de mécènes que la presse de gauche, apparemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même assez opaque, en fait. C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils ont bien compris que parler des personnes qui les financent, c'était pas du tout dans leur intérêt, et que les financeurs, du moins, voulaient rester discrets, et que du coup, en fait, on sait pas forcément qui les finance. Après, c'est parfois donner de l'argent pour des maraudes, pour des événements comme ça et tout, mais ça rassemble quand même près de 1500 jeunes, donc c'est énorme en termes d'organisation, c'est quand même énorme. Donc voilà.
Et au sein de la communauté chrétienne, j'ai vu que donc il y a certains qui ont qualifié cette Cité Céleste de louange identitaire.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle recouvre, cette critique ?
Alors c'est important de préciser que la tribune chrétienne, elle n'est pas représentative de ce que peut penser évidemment les catholiques. C'est un avis conservateur qui, pour moi, était assez significatif de la réaction, disons-le, raciste, qui peut advenir quand, comme on aime dire, bon là c'est bien qu'il y ait des jeunes issus de banlieue, mais pas trop, en fait. C'est-à-dire que ce que j'utilise comme terme pour le décrire dans cette enquête, c'est de dire qu'au final, ce qui est décrit comme une promesse d'ailleurs on en a déjà parlé plusieurs fois avec Paul, notamment des médias comme La Croix ont bien sûr été très enthousiastes à l'idée de voir cette jeunesse catholique racisée reprendre un peu les rênes, mais pour d'autres en fait c'est vite perçu comme une menace. Et c'est bien ça le souci de leur côté. Ils sont pas identitaires du tout, c'est plutôt le fait qu'il y ait une majorité de personnes racisées à ces rassemblements qui font d'eux, on leur colle le mot identitaire, mais comme j'aime le dire, les corps racisés sont forcément politiques, de toute manière en fait, qu'on le veuille ou non. C'est ça, je l'ai dit plusieurs fois à Don Alexis, qui se veut apolitique dans leur démarche, mais c'est pas possible d'être apolitique quand on se trimballe avec 1500 personnes noires.
Et c'est bien voilà. Ce que tu montres dans ton enquête et reportage. Toi, tu mènes actuellement ce que tu appelles un tour de France catholique.
Je sais, oui.
En quoi est-ce que ça consiste, ce projet? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Je suis en train d'écrire un livre, effectivement, sur le catholicisme social, mais le fait que j'ai grandi dans une famille issue de l'immigration donc camerounaise conservatrice. Mon frère est prêtre. Mon frère est pas du tout un gros gaucho. Hein, c'est plutôt l'inverse. J'ai découvert, notamment avec le CRI et d'autres personnes, le catholicisme social. De base, je suis féministe et je suis très engagée dans les combats antiracistes. Et je n'ai absolument pas peur de dire que je suis antifasciste aussi. Ce qui fait que, à ce moment-là, moi, je décorrèle totalement le fait d'être catholique de l'engagement de gauche. Et c'est seulement en tant qu'adulte que j'ai découvert ça. Donc c'est aussi le fait de me dire pourquoi c'est seulement à 30 piges que je découvre ça et pas avant. Ma volonté de faire ce cateau-tour, entre guillemets, hein, c'est d'aller effectivement dans les grandes villes. Moi, j'ai lancé un grand formulaire où j'ai eu une centaine de réponses. J'ai dû trier sur toutes les personnes qui se reconnaissaient un peu dans le parcours de gens qui étaient engagés à gauche et qui finalement ont quitté le catholicisme. Et donc, j'essaie avec mes moyens d'aller à leur rencontre. J'étais à Lyon le week-end de la mort de Quentin Durand. C'était atroce. L'ambiance était pesante de fou, mais les catholiques de gauche essaient de tenir résistance, on va dire ça.
Et ton reportage, il montre donc que l'Église, elle a du mal à penser la diversité sociologique et culturelle de ses fidèles et que des préjugés structurent les institutions religieuses françaises.
Mais comme partout. Ouais. C'est comme à l'école, comme à l'hôpital. Ça, en fait, c'est juste une institution. Pour le coup, elle est millénaire, donc ça se voit plus. Et puis, elle est. On est en France, donc l'Église catholique était proche de l'Ancien Régime, donc elle est profondément ancrée dans la bourgeoisie, dans le royalisme. Et d'avoir une émigration qui, mine de rien, sur l'histoire totale de France, qui est beaucoup plus récente du XXe siècle, c'est normal que, effectivement, on ait des vieux personnes blanches qui, à la messe, se réjouissent de ce public neuf. Mais sans trop savoir comment communiquer, qui n'ont pas les codes, et surtout parfois qui ne viennent pas du même milieu social, ça c'est surtout important.
Et oui, donc ma dernière question, c'est pour reprendre un peu ton expression, comment est-ce qu'on pourrait désembourgeoiser les séminaires ?
Alors, ça c'est une phrase qui est tirée du témoignage d'un séminariste qui accompagne le reportage et qui effectivement qui dénonçait les actes et propos biais racistes, à connotation raciste, biais raciste, on appelle ça comme on veut, qu'il a pu constater lui-même en étant un jeune homme noir. Comment on peut faire pour désembourgeoiser les séminaires? C'est aussi ouvrir la porte, je dirais, à autre chose que des cadets de famille bourgeoise aussi, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera difficile, hein, parce que l'institution, pour le coup, a fait beaucoup appel à des prêtres africains, donc c'est-à-dire directement qui sont originaires natifs du continent, et pas fort. Et les natifs en France, eux, sont majoritairement blancs. Donc là, pour l'instant, c'est un peu difficile. Et je terminerai sur le fait que c'est pas parce qu'on vient aussi de banlieue qu'on est forcément quelqu'un de progressiste. Ça, faut faire attention avec ça. C'est pas pour autant qu'on a un programme social dans le sac.
Oui, c'est ce que tu soulèves aussi dans ton reportage en disant que ça reste quand même conservateur.
Oui, tout à fait.
Etc. Oui. Mais merci beaucoup pour tes réponses et pour ce super reportage, Estelle.
Merci.
Oui, merci Ilona, merci surtout Estelle pour ce beau reportage qu'on peut retrouver donc dans le numéro 5 du CRI. C'est le dernier en date puisqu'il est sorti au début du mois de mars. Mais restez à l'affût, on en a parlé tout à l'heure. Le prochain numéro est dispo dès la semaine prochaine. C'est bien ça, Paul ?
C'est ça.
Donc en kiosque, on l'a dit. Et puis aussi en abonnement, c'est important. On l'oublie un petit peu parfois que l'abonnement, ça existe et ça aide les médias indépendants. Alors, donc, avec nous en plateau, on est toujours avec toi, Paul, le cofondateur du média Le Cri. Paul, tu nous as présenté la revue, son fonctionnement, son positionnement aussi dans le paysage médiatique français. Et évidemment, tu l'as évoqué, il y a une importance pour Le Cri à se positionner en contrepoint de l'extrême droite qui s'accapare particulièrement les discours chrétiens. Alors, j'imagine qu'il y a un enjeu particulier à se réapproprier ces discours, à ne pas les laisser dans des mauvaises mains. Est-ce que tu peux nous rappeler le message que défend Le Cri, mais aussi le message plus généralement des chrétiens qui se revendiquent de gauche?
Notre travail, c'est de faire en sorte que des gens qui ne sont pas d'extrême droite et qui sont croyants chrétiens puissent se sentir légitimes et se reconnaître dans notre média. C'est-à-dire, en fait, on est la caisse de résonance de tous les chrétiens qui ne sont pas d'extrême droite. Je ne dis pas des chrétiens de gauche, parce que de fait, on est majoritairement des chrétiens de gauche, mais on tient cette précision parce qu'il y a des chrétiens de droite qui ne sont pas d'extrême droite. Et tout notre travail, c'est de leur dire souvenez-vous que il y avait aussi des gens de votre famille, de votre sensibilité politique pendant la résistance, etc. Voilà. C'est important pour nous chrétiens. Bon, c'est aussi stratégique parce que vous n'aurez pas échappé qu'il y a une majorité de gens de droite chez les catholiques. Et nous, notre travail, c'est vraiment de dire à cette petite partie-là qui n'a pas basculé dans le fascisme ou dans le pré-fascisme, de leur dire vous pouvez encore dire non. Vous pouvez dire non au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie, etc. Vous pouvez dire non. Et ensuite, il y a tous les autres. Tu vois, Estelle disait, juste avant, elle disait, voilà, j'ai découvert à 30 ans, c'est ça que tu disais, qu'il y avait des chrétiens de gauche. Ouais. Et ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Quand les gens découvrent notre journal, moi aussi, j'ai découvert, grâce à telle action, tel festival, tel café, qu'il y avait des chrétiens de gauche. Et c'est pour ça qu'on existe, en fait. C'est parce que pour que les gens se disent, OK, mais je suis pas tout seul. Donc, ça veut dire que je suis pas tout seul. Si on a d'autres, ça veut dire que potentiellement, il y en a encore. Voilà. Donc, notre travail, c'est déjà ça. C'est d'être une caisse de résonance, un cri de ralliement pour dire, bon, l'évangile et la foi chrétienne, ça n'est pas, les conséquences politiques de l'évangile ne mènent pas à des positions politiques d'extrême droite. On pense même plutôt qu'elles mènent à gauche, à des positions anarchistes, à des positions socialistes, des positions communistes, etc. En tout cas, elle mène à l'émancipation, parce que le message de l'évangile, c'est le Christ, et le Christ, c'est l'émancipation. Donc c'est ça qu'on essaie de... C'est ça le cœur de notre foi et de notre journalisme aussi.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, le Cri se positionne frontalement, on en a parlé maintes fois, on en reparlera certainement dans d'autres épisodes, contre Pierre-Édouard Sterrin, catholique, ultra-conservateur, etc., qui lui dit défendre une vision catholique, justement, alors que globalement il va à l'encontre de ce que défendrait en principe le christianisme.
Oui, alors je ne sais pas s'il dit exactement qu'il défend une vision catholique. Il se présente comme catholique et il défend une vision politique d'extrême droite.
Le et projet donc, Périclès.
C'est voilà, le Périclès, c'est ça. C'est patriote, enraciné. Je ne vais pas vous tous les refaire parce que je ne les ai plus. Identitaire, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je l'avais appris par cœur, évidemment. Mais donc, en fait, sa vision politique, c'est d'abord une vision politique qui s'enracine dans la vision politique d'extrême droite. Et en plus, il est catholique. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça. Et les deux s'agencent. Et il fait comme il peut pour rentrer ses idées politiques au chausse-pied dans la doctrine sociale de l'Église. Voilà, donc nous, effectivement, on conteste totalement cette récupération. Et notre travail, c'est aussi de dire, bah non, théologiquement, il y a un truc qui va pas du tout dans ce que tu penses. Et dans tout ce que tes copains pensent, ça ne peut pas fonctionner. Voilà.
Et c'est aussi contradictoire, si je rajoutais, parce qu'effectivement, Ilona m'a interrogé sur Pierre-Édouard Sterrin. Il a financé la Cité Céleste. Il faut bien comprendre que c'est totalement... Ça ne rentre pas dans son projet politique Périclès, parce que ces jeunes-là représentent littéralement la cible directe de tout ce que déteste l'extrême droite en France. Des jeunes de banlieue, issus de l'immigration. Voilà, ça, c'est tout ce... Enfin, c'est un épouvantail. Donc, c'est vrai que c'est assez... On comprend pas. Tant qu'ils sont catholiques, ça va. ou du moins, soit ils ont compris qu'il fallait ouvrir le spectre et qu'on pouvait pas gagner comme ça et qu'il fallait effectivement commencer à gagner sur le terrain effectivement de la religion. L'église MLK, qui est une église évangélique qui est basée à Créteil, qui est une église, une méga church comme on appelle, en 2022, Christine Kelly, présentatrice de CNews, demande à appeler à voter pour Éric Zemmour devant un parterre, un public qui est majoritairement noir. Mmh. Donc en fait, on est totalement dans un multiverse, mais c'est assumé.
Mmh. Mais pour compléter ce que dit Estelle, Pierre-Edouard Sterrin, avec le fond du bien commun, il a eu aussi une stratégie d'inonder tout ce qu'il voyait comme étant catholique. J'ai souvenir, début d'année 2020-2021, quand il commençait à sortir du bois, d'avoir été en contact avec des gens du fond du bien commun, à l'époque où c'était pas encore identifié politiquement, qui disait bah voilà, nous on finance des projets culturels d'inspiration chrétienne. Donc c'est typiquement un message qu'on peut difficilement d'abord qualifier politiquement, quoi. On se dit bon bah en gros c'est un mec, moi j'avais dit bon c'est un catho macroniste comme il y en a plein, et il finance la culture. Et c'est après que en fait on a compris que le mec avait un projet politique. Mais donc on est arrivé à une situation où il y a quelques années on n'arrivait pas, enfin les pistes étaient brouillées, il avait financé tellement de trucs
totalement
contradictoires,
ouais,
qu'on savait pas tellement s'il avait une vision sociale, une vision ceci, une vision cela. Voilà.
Quoi qu'il en soit, il ressemble à un mauvais bougre, en tout cas, qui est infréquentable. Et face à ça, face à ce type de personnage, j'imagine qu'il est important aussi de tisser des liens, des alliances, de nouer des relations avec certaines luttes qui existent, des luttes politiques, sociales, écolo, antifascistes. Est-ce que cette vision aussi dont vous parliez de découvrir en fait assez tardivement qu'il existe des cathos de gauche, ça a mis de côté les chrétiens, des luttes sociales, des luttes écolo, est-ce que du coup les liens et les alliances sont plus difficiles à nouer, ou comment est-ce qu'on fait dans cette situation-là?
Alors pardon, ça me fait rire parce que je pense à Marine Tondelier, c'est pour ça. Pardon, je te le dis, mais
vas-y, vas-y.
Non, parce que Marine Tondelier, qui est à la tête donc d'Europe Écologie Les Verts, a fait son coming out, que j'aime beaucoup dire, coming out catho. Il y a plusieurs, il y a pas mal, au moment de la mort du pape François, en fait, où elle était sur pas mal de plateaux, a déroulé un peu son catholicisme social, comme d'ailleurs bien avant elle, Cécile Duflo aussi, qui a fait la même chose. Et c'est assez, on comprend de plus en plus qu'elle essaie de gratter aussi de ce côté-là. Alors, il y a les présidentielles qui arrivent, donc je pense qu'on peut pas négliger ce qui se passe, mais du coup Théo Mouaille, qui est donc directeur de la rédaction du CRI, a écrit un papier concernant sa présence au dîner des bâtisseurs, justement, qui est un dîner que l'humanité il me semble, a qualifié d'extrême droite, et qu'on a rectifié justement pour, comme le disait très bien Paul, on veut éviter cet amalgame, parce que dans le milieu catholique on peut très vite basculer effectivement, savoir être financé par un mec d'extrême droite alors qu'en fait c'était pas ça, se retrouver à des dîners alors que, enfin bref, c'est mais tu l'expliqueras mieux que moi de toute manière.
Sur le dîner des bâtisseurs, donc qui est effectivement une initiative qui est pas marketé Pierre-Edouard Sterrin, mais qui émane de la sphère Sterrin, il faut être précis. Nous, notre position, c'est de dire, attendez, on n'y est pas allé pour l'instant, on l'a boycotté, mais si un jour on décide d'y aller, c'est pour une raison, c'est on y va en tant que catholique. C'est-à-dire, il y a un moment, si demain l'Église catholique devient nazie, on va pas s'interdire de rentrer dans des églises, en fait. C'est-à-dire que il y a un moment où, peut-être qu'à titre individuel, tu peux dire, moi, je mettrai plus jamais les pieds dans une église. Mais sauf que les églises, elles sont là depuis des siècles, en fait. Donc, elles n'appartiennent pas à l'extrême droite. La foi chrétienne n'appartient pas à l'extrême droite. L'évangile n'appartient pas à l'extrême droite. Et donc, le message du Christ, il est toujours le même, quoi qu'en fasse l'Église. Donc c'est important pour nous de dire on est là, en fait. On est là et vous allez devoir faire avec nous. De dire ça à l'institution, qui est l'institution catholique, qui est de plus en plus, le cul entre deux chaises. De dire ouais, mais nous on sera toujours là. Parce que ça vous arrangerait qu'on fasse les gauchistes de service, qu'on disparaisse des radars, et qu'on soit plus du poil à gratter, mais en fait, si, en fait, vous allez devoir faire avec nous.
Voilà. Moi, je me demandais, en fait, je connais un certain nombre de personnes qui sont catholiques de gauche depuis les années 60, 70, et qui, en 2012, faisaient pas forcément la manif pour tous, mais étaient pas non plus pour le mariage gay, et qui, aujourd'hui, par contre, sont dans des associations pour militer pour que les femmes puissent devenir prêtres et que les gays et lesbiennes puissent se marier. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a aussi eu un changement ces 10-15 dernières années dans les, chez les catholiques, enfin, je dis les catholiques parce que c'est des personnes catholiques que je connais, mais chez les chrétiens de gauche. Et est-ce que c'est dû, par exemple, à un espace qu'a laissé François? Est-ce que c'est dû à d'autres choses? Voilà, vous me posez la question.
Est-ce qu'il y a une évolution des cathos de gauche ou des catholiques de manière générale?
Des années 70, c'est ce que tu disais, c'est le fait que... Mais c'est vrai qu'il y a eu, en fait, une cassure avec la manif pour tous. Ça c'est évident, c'est-à-dire que des personnes qui étaient à gauche, en fait, on s'avérait être pas mal gênées. Enfin, moi, décrivons ça comme de l'homophobie, disons les choses comme elles sont, ou de l'ignorance pour certains. Et c'est vrai qu'avec François, ça a tout changé parce qu'il il s'est emparé de l'écologie, il s'est surtout emparé des questions migratoires. Et à partir de ce moment-là, ça l'a bien positionné dans un monde qui se trumpisait, parce que Trump, ça fait presque 10 ans qu'on se tape. Et donc, ce qui fait que quand il a recentré, le pape François a recentré son regard vers les plus pauvres, ça a aussi mis aussi une ligne politique qui a ramené ceux qui étaient partis, entre guillemets, ça a créé un renouveau que donc Paul pourra mieux décrire que moi, un renouveau ce catholicisme social et une nouvelle naissance. Quoi.
Ouais, alors sociologiquement, on peut dire qu'il y a un chaînon manquant entre la vieille génération des cathos de gauche que tu décris, qui sont une bonne partie de nos lecteurs, des gens de plus de 60 ans, qui ont vraiment une culture très progressiste dans l'Église catholique, très attachée au Concile Vatican II. Donc il y a cette génération-là. Ensuite, il y a un saut générationnel où on perd une grosse partie des effectifs. Et on revient avec cette nouvelle vague, la vague Pape François, qui est pas forcément d'ailleurs issu des milieux chrétiens, etc. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a des gens issus des milieux conservateurs, des enfants des mouvements d'action catholique, donc c'est les cathos de gauche, quoi. Et c'est un peu brassé tout ce milieu-là, la jeune génération, moins de 40 ans, quoi, pour faire vite. Et donc oui, je pense que, comme disait Estelle, il y a eu la manif pour tous qui a radicalisé quand même la polarisation des catholiques entre eux. Et puis après, c'est en miroir de la société. Hein. Le Covid et puis toutes les grandes étapes de la fascisation du monde ont fait que, globalement, aujourd'hui, on a deux pôles qui ne se parlent plus, qui se tapent dessus sur les réseaux sociaux Tout se passe bien, la vie normale, quoi.
C'est pour ça que le CRI est là pour remettre les pendules à l'heure aussi et faire cette caisse de résonance dont tu parlais tout à l'heure. C'est important aussi d'ailleurs de le rappeler, on l'a pas dit, que le CRI s'adresse évidemment pas que à des croyants.
Il faut dire, oui. En fait, on n'est pas un journal, on est un journal chrétien, on assume totalement notre foi chrétienne et notre identité chrétienne. Parce que c'est à la mode l'identité, donc d'un point de vue marketing, c'est très important de dire ce que vous êtes. Et surtout, nous, on ne veut pas laisser le champ à la droite et à l'extrême droite. Ça les a rendus totalement fous quand on est sorti en octobre. Ça les a rendus totalement malades, les fachos, cathos, parce qu'en fait, ils se sont dit, mais comment ils osent dire qu'ils sont chrétiens? Ça les a rendus fous. Et vraiment, c'était calculé. On s'est dit, mais tu sais, le pire, c'est qu'on va dire qu'on est... Enfin, il n'y a pas besoin de forcer. Moi, je suis croyant, je vais à la messe tous les dimanches, etc. On est toute une vague de catholiques croyants pratiquants ou moins pratiquants. Enfin, voilà. Mais on s'est dit, mais ça va les rendre totalement fous parce qu'ils ont tellement une image de la gauche qui est, la gauche, c'est les athées, c'est les gens qui nous tapent dessus, etc. Et là, d'un coup, tu as des cathos qui débarquent et qui disent, nous, on est de gauche, genre 100% cathos, 100% de gauche. Donc ça, c'est important parce que ça permet à plein de gens... c'est une respiration, enfin pour moi le premier, hein. C'est-à-dire que ce journal, c'est le journal que j'ai envie de lire, et donc c'est un journal qui est chrétien mais qui est ouvert aussi à des gens qui sont plus en recherche, qui sont intéressés par la spiritualité, parce qu'on s'était rendu compte en fait avec Théo quand on a préparé ce journal qu'il y avait un retour de la question spirituelle via les milieux écolos quand même beaucoup, moi je viens plutôt de ces milieux-là, via les milieux écolos et qu'il y avait de plus en plus de jeunes de 20 ans, donc moi j'en ai 37, donc je ne suis pas de cette génération-là, mais des gens de 20 ans qui arrive sans aucune culture religieuse, mais qui s'intéresse à la question de la spiritualité, que ce soit l'islam, etc., toutes les religions, quoi. Donc ce média, il est aussi pour eux, pour leur dire, bah, nous, c'est une spiritualité d'ouverture, et on peut être progressiste et croyant, et je trouve qu'intellectuellement, c'est même très fécond de poser les deux en même temps, quoi. Voilà.
Eh bien, le message est passé. Merci Paul, merci Estelle pour ces éclaircissements. Et surtout, merci d'apporter dans le paysage donc médiatique français cette nouvelle voix, un nouveau cri pour lutter contre toutes ces dérives et tous ces récits. Mais le cri, c'est pas le seul média qui est engagé pour la liberté de la presse et contre l'extrême droite. Et justement, Sacha, tu vas nous parler de quelques autres médias indépendants qui ont créer un média éditorial un peu spécial.
Et oui, car en cette fin de mobilisation politique pour les élections municipales, j'aimerais revenir sur une initiative qui m'a particulièrement marqué. Elle s'appelle Combat. Alors Combat, c'est le nom d'une publication papier, collective, hors série, et menée par 5 rédactions, à savoir L'Humanité, Street Press, Radio Nova, Blast et Les Inrocks. Le but de ce rassemblement médiatique est annoncé clairement sur la couve, front commun contre l'extrême droite. Dans l'éditorial de ce numéro de Combat, il est écrit, je cite, « L'extrême droite bolorisée sature l'espace public et avance masquée, prospérant sur les espoirs déçus et le « on n'a jamais essayé ». Fin de citation. Plus loin, les journalistes et rédactrices en chef Mathieu Mollard, Denis Robert, Pierre Sankowski, Maud Verniol notent, je cite encore, « Le journalisme ne peut pas se réfugier derrière une neutralité de façade. Informer, enquêter, documenter est aujourd'hui en soi un geste démocratique. »
Mais alors Sacha, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce journal ?
Eh bien le numéro est plutôt bien fourni, 80 pages bien remplies. À l'intérieur, les formats varient. On y retrouve des articles rappelant que non, le Rassemblement National, ex-Front National fondé par des héritiers de Vichy, n'est vraiment pas l'ami des Juifs, comme peuvent le prétendre certains médias dominants s'obstinant à qualifier la gauche d'antisémite. Que le RN n'est pas non plus le sauveur des classes populaires sur le plan économique, car son programme plaît beaucoup aux grands patrons du capital et ne compte pas vraiment revaloriser le salaire minimum. Mais bon, ça déjà, on le savait. Dans ce journal, on peut aussi y lire une anticipation d'à quoi ressembleraient nos vies si le RN prenait le pouvoir. Bon, sans vous faire tout le déroulé des pages, ce numéro de Combat apporte tout de même des respirations militantes, joyeuses et humoristiques, comme une double page qui se consacre aux recommandations du collectif Les Soulèvements de la Terre visant à désarmer Bolloré. On lit aussi l'humoriste star de La Dernière sur Radio Nova, Guillaume Meurice, qui réalise tout un tas d'entretiens avec des personnalités diverses et engagées, comme Cyril Dion, Blanche Gardien, Corinne Massiero, Assa Traoré, Sandrine Rousseau ou encore Rima Hassan. Dans ses colonnes Meurice, il leur pose des questions types sur la définition de la violence, les événements qui les ont marqués dans le militantisme ou encore sur la condamnation de la non-violence. Des cartes blanches sont aussi laissées à d'autres humoristes comme Jamil Lechlag ou Hakim Omiri pour qu'ils dressent leur programme politique idéal. Par exemple, moi j'ai noté que j'ai bien aimé une carte vitale pour acheter des légumes bio ou encore supprimer la BAC, la brigade anti-criminalité. Pour finir, je citerai encore des entretiens avec d'autres personnalités, comme l'économiste Julia Cagé, la journaliste et militante décoloniale Rokhaya Diallo, ou encore la rappeuse Deuxel.
Et en parlant de rap, Sacha, tu voulais nous faire écouter quelque chose, je crois.
Oui, moi je me suis rendu au dernier concert de la tournée municipale organisée par le média indépendant Grunt. Cette tournée qui avait lieu dans plusieurs villes de France, 9 au total, comme Caen, Lyon, Tours ou encore Nice, amenait de multiples artistes rap, tous et toutes engagés pour faire barrage à l'extrême droite et appelés à voter massivement à gauche. Le dernier concert, donc, il avait lieu au Cabaret Sauvage à Paris le 12 mars dernier. Je vous laisse écouter les paroles de Jean Morel, fondateur de Grunt.
Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où nous, par exemple, en tant que médias indépendants, ou pas mal de médias qui essayent de raconter des histoires, de faire des choses, de faire de l'enquête, de défendre la culture, on est vraiment minimisé à l'échelle des médias Bolloré qui prennent la plupart des espaces pour développer les discours de haine. C'est très important de continuer à faire en sorte de défendre les médias, ceux qui essayent de faire des choses, ceux qui essayent de raconter des histoires, ceux qui essayent de vraiment faire en sorte que la presse libre puisse exister. On est vraiment en danger de ce point de vue-là. Et je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir du coup un média essentiel pour nous, qui fait un travail incroyable, qui nous a accompagnés sur cette tournée et qui fait un boulot incroyable en termes d'annonces, d'action, de manière de travailler sur l'extrême droite. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez faire le plus de bruit possible pour Street Press et pour le boulot exceptionnel qu'il fait.
Voilà, et il y avait une super ambiance, et Jean Morel, à la fin, a annoncé que l'intégralité des fonds de la tournée municipale serait reversée à Street Press. Pour finir, je dirais que si les médias de gauche peuvent réussir à s'allier pour un front commun, cela devrait servir d'inspiration aux partis politiques. Dans certaines municipalités, le front antifasciste a réussi. Ce serait bon de prendre exemple pour 2027 et d'inverser le dicton des années 30. Mieux vaut le Front populaire que Hitler, et pas l'inverse.
Bien envoyé, Sacha. Merci pour ta chronique, qui donne aussi envie de se ruer dans les kiosques pour se procurer cette merveille de la presse indé. D'ailleurs, nous aussi, on va se le procurer. On revient tout de suite, juste après une deuxième pause musicale. On écoute Le Petit Pêcheur de Manon Lisa.
C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, les arder sur le sable, regarder grandir ses filles, les après-mêmes au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Découleras tes stocks en faisant des filets aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc. Et là, import, export, dans les dollars tu nageras. Les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur? Une vie de roi, c'est pouvoir pendant des heures profiter de ta famille, les arder sur le sable, regarder grandir tes filles, les après-mêmes au calme. Mais c'est déjà exactement ce que je fais. Et le pêcheur s'en alla en fredonnant ce refrain. J'aime, j'aime quand la vie est facile. J'aime, j'aime quand le soleil brille. J'aime, j'aime quand l'amour nous fait signe, souffle sur tes cils. Fredonne, j'aime, j'aime quand tout me fascine. J'aime, j'aime que tu m'aimes aussi, oui j'aime. Et l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
Encore. On vient d'écouter Le Petit Pêcheur de Manon Lisa sur Radio Campus Paris.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Et une fois n'est pas coutume, en fin d'émission, on part en région à la découverte d'un média indé local.
Je me casse de Paris.
Je vais voyager.
Je fais le tour de France.
Il y aura toute la presse locale.
J'avais peut-être tout simplement envie de voir du pays.
Aujourd'hui, Luna, tu nous emmènes à La Réunion.
Oui, j'ai discuté avec Olivier Secaldi qui nous présente le média Parallèle Sud.
Olivier Secaldi, vous êtes journaliste dans le média indépendant réunionnais Parallèle Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment a été lancé ce média ?
Oui, bien sûr. Alors, ce média est dans sa cinquième année d'existence et il est fondé par plusieurs anciens journalistes en fait du quotidien qui, à cette époque-là, en fait, quittent le journal. Et on est aussi à ce moment-là un peu dans la période des gilets jaunes. Et en fait, ils ont cette réflexion de se dire que le journalisme doit pouvoir se faire autrement, c'est-à-dire avec un temps plus long. Et sortir un peu de cette dynamique de la nécessité en fait de produire de l'info, de pouvoir prendre un pas de côté par rapport à ce qui se fait. Et au début d'ailleurs, par la suite, ça se fait un média plutôt hebdomadaire, c'est-à-dire que les articles sont publiés le samedi, et l'idée c'est que les gens peuvent lire ces articles le week-end, et donc il n'y a pas besoin de courir après l'actualité. Ce média, il a un peu grossi. Clairement, aujourd'hui, on a trois journalistes à temps plein, deux apprentis, deux services publics. Et on a un peu développé, on va dire, notre approche, mais on essaye toujours un peu de garder cette idée-là, de se dire que, voilà, nous, on n'est pas un média d'actualité brute, nous on est un média qui doit permettre un peu de décrypter, de comprendre, et qui doit surtout se laisser le temps.
On voit que, enfin, sur votre site, vous parlez du fait que vous êtes un média plutôt qui fait des reportages, qui a un média un petit peu plus de terrain.
Et par là-dessus, déjà un média où l'idée, c'est que nous, dans les journalistes, on choisit nos propres sujets. Donc déjà, ça c'est quelque chose de complètement différent de la majorité des rédactions. Et surtout, ouais, nous, on aime les sujets où on part un peu à l'aventure. Alors c'est pas tout le temps le cas, hein. Mais voilà, on aime s'embarquer. La dernière fois, un collègue voilà qui est parti sur les remparts, donc à la recherche des sentiers qu'utilisaient les anciens marrons, des choses comme ça. On aime aller un peu chercher ce que les gens regardent plus, les boutiques qui vont fermer, comprendre en quoi ça nous parle du passé, mais aussi ce que ça nous dit du présent. Voilà, plein de choses variées. Mais c'est ça, ouais, par là-dessus.
Sur votre site, on constate qu'il y a une certaine place qui est laissée à l'expression de personnes qui ne sont pas journalistes et qui peuvent parler de sujets qui les intéressent. Quelle place ça a?
Oui, clairement. Par là-dessus, donc c'est, ça je l'ai pas dit, mais c'est un média associatif. Et l'idée c'était de dire, tout le monde doit pouvoir avoir une voix. Donc effectivement, il y a un vrai travail journalistique, hein. Il y a une rédaction, de rédac tous les vendredis, tout ça. On a aussi des journalistes bénévoles, hein, qui sont professionnels mais qui sont bénévoles et qui viennent vers nous, parfois pour nous apporter des contributions. Mais on a surtout cette rubrique qui s'appelle Libre Expression. Alors là, c'est des gens en fait qui nous envoient des sujets, des écrits. Alors ça peut être sur tout et n'importe quoi. Ça peut être un écrit plutôt personnel, un écrit plutôt historique, des écrits, voilà, un regard sur l'actualité. Et en fait, nous, on reçoit ça et en général, on essaye de publier la majorité. Mais la vérité, c'est qu'on n'arrive pas, parce que ça nous prend du temps quand même, on n'arrive pas à tout publier, mais on publie quand même la majorité, notamment celles qui nous paraissent le plus pertinentes. Mais ça, c'est un point effectivement qui est, on va dire, un peu essentiel pour nous. De pas perdre cette rubrique de la libre expression.
Est-ce que ça a un sens particulier à La Réunion d'avoir cette rubrique là?
Moi, je sais pas si c'est particulier à La Réunion. Je pense que je me dis que ça correspond un peu à ce que fait Mediapart avec son blog, avec le club Mediapart où chacun peut un peu écrire et puis de temps en temps il y a des écrits qui sortent du lot et ils sont mis en avant. Non, je pense que c'est pas particulier à Lille. Mais c'était une volonté, en tout cas. Peut-être que sur Lille, on va dire que la parole, elle n'était pas donnée forcément sur n'importe quel sujet, et toutes les formes d'expression ne sont pas forcément possibles. Donc peut-être que ça aide, peut-être que ça joue un rôle. En tout cas, nous, on sait que c'est apprécié. Et quand on fait des réunions avec nos adhérents, avec les soutiens de Parallèle Sud, on sait que la rubrique Libre Expression est en tout cas une rubrique voilà, qui leur tient à cœur.
Est-ce que vous pouvez parler de comment vous financez Parallèle Sud?
Ouais, alors la question du financement, on va dire que c'est une question qui revient de manière hebdomadaire. Il n'y a pas une conférence de rédaction où on n'en parle pas. Alors le financement, pendant longtemps, Parallèle Sud s'est financé notamment grâce aux ateliers d'éducation aux médias, et ça permettait, on va dire, de nourrir un peu le média et de payer les salaires. L'année dernière, les financements, notamment pour le Pass Culture, ont un peu chuté. Donc ça, voilà, cette partie du financement, elle s'est écroulée d'une certaine manière. Donc il a fallu aller chercher d'autres financements. Donc aujourd'hui, on a aussi une partie où on publie des communiqués institutionnels, une partie qui est complètement séparée de la partie rédactionnelle. Et après, on a des aides. Par exemple, l'année dernière, on a eu une aide de la part du Fonds pour la presse libre. Donc ça nous aide, mais voilà, c'est est constamment en réflexion de comment faire pour multiplier les formes de financement pour justement garder une indépendance totale. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en fin d'année 2025, on a décidé de passer en fait sous forme d'abonnement. Alors sous forme d'abonnement partiellement, on va dire, parce que la majorité quand même des articles restent gratuits. Mais aujourd'hui, on essaye voilà d'avoir certains articles qu'on considère les plus travaillés ou en tout cas qui nous ont demandé le plus d'investissement. Voilà, ils sont en payant, avec bien sûr des formules hein, qui restent quand même accessibles. Hein, une formule tarif social à 2 €, une autre standard qui est à 5 € par mois, et sinon une offre soutien, on va dire, qui est à partir de 10 €. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on essaye de convaincre les gens que l'information elle doit être payante. En tout cas, que il faut sortir aussi de cette idée que l'information elle est gratuite et que c'est normal, parce qu'en fait le travail des journalistes il l'est pas. Et sauf qu'aujourd'hui ça c'est une vraie difficulté de convaincre et surtout de trouver des financements qui permettent de garder une indépendance.
Et sur votre site aussi, on voit qu'il y a beaucoup de formats différents. Donc il y a du texte évidemment, mais aussi de la vidéo et du podcast. Est-ce que c'est une volonté particulière du coup de multiplier les formats? Est-ce que comment c'est venu tout ça?
C'est venu, je pense, progressivement de l'idée vraiment de départ de se dire chaque journaliste doit être libre de la manière dont il veut traiter un sujet. Et donc ça s'est développé petit à petit, ça s'est aussi développé petit à petit parce que chacun on a développé aussi certaines compétences qu'on n'avait pas au début. Je prends mon cas personnel, moi quand je suis arrivé, moi je suis photojournaliste au départ, l'écriture ça m'est venu au fur et à mesure, mais voilà, quand j'arrive à Parallèle Sud, moi je suis photojournaliste et rédacteur. Sauf que très vite, certains sujets, bah, je me rends compte que la voix elle a une importance, et donc je me dis ok, je vais faire, moi j'ai envie de faire, voilà, sur tel, j'ai une série de podcasts voilà, qui s'intitule Voix d'image, où je vais interviewer des photographes sur des sujets qu'ils ont traité à La Réunion, et en fait pour moi leur voix, le fait de les entendre parler de leur travail était important. Et donc le premier épisode, sûrement si on l'écoute aujourd'hui, voilà, il n'est pas très, il y a plein de petites choses à régler, mais voilà, progressivement aussi on développe, on va dire, des compétences et qui nous permettent de proposer des choses un peu, ouais, de proposer plusieurs formats. Et puis après c'est aussi en fonction des arrivées, des départs. Encore une fois, c'est un média associatif, donc il y a des gens qui viennent, qui sont là parfois pendant 6 mois, et parfois finalement, bah, soit ils trouvent un poste, soit, bah, ils partent. Donc ça aussi, forcément, ça impacte, on va dire, le contenu qui peut être proposé, quoi.
Donc là, en fait, en ce moment, on est plein dans les municipales. Est-ce que on peut savoir un peu comment c'est de couvrir les municipales quand on est un journal indépendant? Est-ce que ça change des choses? Est-ce que ça change quelque chose aussi d'être à La Réunion?
Je pense que le fait d'être à La Réunion, c'est juste que c'est plus, je sais pas si c'est plus intense, en tout cas je sais que voilà, les municipales ici c'est intense. Il y a des villes où on sent quand même la tension, la pression du résultat. Mais après surtout la difficulté effectivement, c'est comment on couvre en fait 14 communes, alors qu'on est une équipe de 3 journalistes en plein, 2 apprentis et 2 services civiques. D'ailleurs, les services civiques travaillent pas le week-end, donc finalement que à 5. Et en fait, ça, bah, par exemple, la semaine dernière, ça a été une vraie question. Comment on faisait pour... Bah, on était 4 de disponibles. Dimanche, comment on fait? Et donc, bah, on s'est un peu répartis. Moi, j'ai couvert... sur la ville de Saint-Pierre, une collègue a couvert sur la ville du Tampon, une autre sur la ville de Saint-Leu et un autre plutôt dans le nord, plutôt dans l'est même. Et donc voilà, chacun a fait un peu avec avec le temps, l'énergie aussi qu'il avait. Donc d'ailleurs, je leur ai dit moi hier, hein, mais j'étais plutôt fier de ce qu'on avait fait, d'avoir réussi quand même à couvrir 4 villes. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est comment on fait déjà avec le peu de moyens, avec le peu d'effectifs, mais aussi comment on fait, parce qu'en fait on peut pas rivaliser avec Réunion la Première, avec d'autres grosses structures. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer, quelle est l'approche qu'on peut proposer qui va être différente, qui va faire que nos lecteurs ils aiment nous lire. Et donc ça peut être une approche un peu plus narrative, un peu plus de l'intérieur. Moi par exemple, j'ai raconté j'ai fini ma journée en faisant le dépouillement dans un bureau. Donc tout en étant journaliste, mais en étant citoyen, comment on vit ça, comment ça se passe. Et après il y a une autre difficulté. Alors celle-là, elle est plus ou moins ressentie ou pas selon les communes, mais c'est qu'effectivement, encore une fois, on est un petit média. Et donc les politiques, certains aiment beaucoup nous avoir au téléphone, d'autres, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que en fait, en tout cas moi je ressens que on n'est pas à réunion à première, c'est-à-dire qu'on n'est pas si important que ça. Et donc, ils ne peuvent pas nous accorder trop de temps. Parce qu'en fait, notre lectorat est réduit et donc c'est pas si intéressant pour eux. Mais bon, après, c'est toujours sympa d'être l'outsider et de voilà. C'est aussi quelque chose qu'on, en tout cas, je pense qu'on aime, savoir que voilà, on nous attend pas et donc parfois on sort des petits trucs qui sont intéressants et parce qu'on va fouiner, parce que on se dit on nous attend pas là, donc autant pas y aller quoi. Donc allons ailleurs. Allons regarder autre chose, et finalement c'est ça qui est intéressant.
Merci Luna pour cette interview avec Olivier Secaldi à la réunion du média Parallèle Sud. Chers auditeurices, c'est malheureusement déjà la fin de cette émission. On était avec le média chrétien joyeux et radical Le Cri, notamment avec son cofondateur Paul Picaretta et avec la journaliste Estelle Njanjo. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 4ème Murmure. Merci également à vous Marion, Ilona, Luna et Sacha qui étiez avec nous autour de la table. Merci à Jocelyn qui était en régie, à la réalisation de l'émission, et enfin bien sûr merci à vous fidèles auditeurices. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 4ème Murmure. Bonne soirée.